Alors sur l'autre partie, sur l'autre partie de votre de vos remarques, alors je dirais d'abord, je pense qu'on peut définir la langue, à propos de Mallarmé commenté par Valérie, on peut définir la langue, toute langue également comme un appareil. Hein. Il y a d'ailleurs des textes de Merleau-Ponty, un texte en tout cas de Merleau-Ponty auquel je pense qui le définit. C'est-à-dire, la langue, finalement, c'est une structure qui peut être indéfiniment parlée. Alors, peut-être qu'il y a des langues qu'on cesse de parler, hein, mais en réalité, la structure de la langue peut être indéfiniment parlée, c'est-à-dire permettre de produire des énoncés qui sont encore inouïs, qui n'ont encore jamais été produits, pas cela, pas comme ça, etc. Des énoncés qui n'ont encore jamais été produits et qui, en même temps, eux-mêmes, modifient, malgré tout, ces structures pourtant extérieures à ceux qui parlent. Il y a là quelque chose qui est fondamentalement de l'ordre de l'appareil. Et donc, en effet, ça peut expliquer, au fond, que toute lecture soit une manière de... non pas de disposer du texte, mais de redisposer le texte. Hein, ce qui n'est pas tout à fait, évidemment, la même ambiance. Voilà.
Ce qui vaut pas pour, pardon, ce qui ne vaut pas pour tout texte.
Ce qui ne vaut pas pour tout texte.
Ouais, c'est-à-dire que tout texte n'a pas cette, ne peut pas potentialiser une modélisation.
Bien sûr, tout texte ne peut pas... c'est-à-dire... je pourrais remonter à la manière dont Aristote distingue dans le texte fondateur pour moi finalement de toute cette réflexion la parole de la communication. Hein. Donc, de même que on peut travailler la technique en prenant en compte cette puissance de modalisation qu'elle contient. Voilà. Mais on peut aussi réduire la technique, ce que moi j'appellerais volontiers l'économiser, hein, la disposer, en disposer, de telle sorte précisément qu'elle ne soit pas modalisable. Et que on aille vers des rapports à la technique qui rendent ces productions prévisibles, inscriptibles dans des services au sens strict que j'ai essayé de critiquer ce soir. Donc je pense que ça s'appelle dans mon esprit l'économie de la technique. On peut économiser, faire l'économie de la technique, ce qui, quand on passe par les traductions latines du mot économie, comme on le sait maintenant depuis les travaux de Agamben, ça veut dire disposition. On dit les latins pour traduire l'oikonomia grecque, c'est-à-dire disposer de la technique de telle sorte qu'elle soit un service, au sens nous en disposons, et elle produit des objets qui sont des disponibilités strictes. Et pas réglable, et pas modalisable, etc. Donc il y a une économie de la technique. Dans les possibilités de la technique, il y a la possibilité de la réduire. Dans les possibilités de la technique, il y a la possibilité d'économiser le possible. On pourrait dire les choses un peu paradoxales, je sais bien. Alors, c'est ce qui va donner, donc par exemple, effectivement, lieu à des textes qui ne sont pas interprétables, mais qui sont communicationnellement efficaces et qui rendent un service strict, hein, faire passer un message, quelque chose de ce type-là. Mais c'est la même chose, vous citiez, ça serait le deuxième élément de ma réponse, la question des options. Les options, vous disiez, dans l'industrie automobile, au fond, on ne change rien, mais aujourd'hui, on peut dire personnalisé, ça revient à ça. Bon, ça serait mon exemple à moi tout à l'heure du grille-pain. Il ne s'agit pas là de modalisation, il s'agit en fait il s'agit d'un mensonge, au fond. Il s'agit de faire passer pour... une modalité, ce qui est simplement un habillage. Là, on n'est pas dans la logique de la parution, mais de l'apparence. Il faudrait certainement réfléchir de façon plus précise à ce que je viens de dire. Le troisième élément de ma réponse, qui tournait autour, je vais schématiser votre remarque et votre question, hein, de comment faire pour, etc. Moi, je répondrai de la manière suivante. Je dirais que le travail que je soutiens sous le nom de design, par exemple, c'est un travail évidemment pas secondaire, mais c'est un travail second. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas nécessairement dans l'initiative, c'est pas nécessairement dans le moment d'initiation de quelque chose que se révèle les possibilités de la chose qu'on est en train de commencer à produire. Et que il n'y a peut-être pas beaucoup. Enfin, les objets qui comptent pour nous, vraiment, c'est-à-dire les objets qui nous mettent bien avec ce que nous pouvons être. Donc des êtres pas asservis, des êtres pas dans le service, etc. Ces objets n'existent probablement pas, comment dire, comme simple fait d'une conception qui serait géniale, mais comme le fait que ce sont des objets qui ont été travaillés par les humains, dont la divergence avec les modèles initiaux ont été travaillés, etc. C'est peut-être dans un second temps. Je répète, c'est pas secondaire, mais c'est second. C'est peut-être dans un second temps, finalement, à partir du moment où Dyson, par exemple, fait diverger avec son pulsateur le ventilateur, il fait du ventilateur un objet intéressant pour nous, paradoxalement. Je sais pas si je suis clair dans ma réponse, mais c'est là que j'irai chercher la ligne de pensée. Ceux qui travaillent en second sont essentiels.
Moi, je vous avouerai que j'aurais eu tendance à situer, sans m'approprier votre réflexion, la question de la modélisation du côté de la capacité, alors je vais le formuler de façon un peu schématique, hein, entre guillemets, du récepteur, à pouvoir déployer des compétences et à pouvoir disposer de réponses qui ne sont d'une certaine manière pas comprise dans l'objet. Autrement dit, possibilité de répondre, on va dire, librement, d'une certaine manière. Et au fond, dans cette histoire de ventilateur de Dyson, là, je vois pas un champ de compétences particulier du côté de celui qui en fera, qui glissera ses mains, au fond. Alors que du côté de, je le vois beaucoup plus du côté du, à la limite de l'ordinateur, de la programmation. Je vois pas le, de même que l'usager de ce vélo, l'usager ou celui qui posera son séant sur le vélo, est au fond assigné à faire du vélo avec un système de motricité. Légèrement différent.
Oui. Mais qu'est-ce que je peux répondre à ça? Il y a quand même un choix qui s'ouvre. Il y a quand même un rapport à ce qu'on est en train de faire qui s'ouvre à partir du moment où vous avez le choix entre un pulsateur et un ventilateur. Quelque chose se passe dans le rapport à l'objet. Même chose pour le vélo. Donc évidemment, j'aurais bien aimé faire l'essai, hein, du vélo de Peugeot, mais c'était radicalement interdit, hein, radicalement impossible. Bon. Donc je ne sais pas d'ailleurs à quel devenir, pour le coup, cet objet est promis. Est-ce que les tests le rendront marchandisable? Je n'en sais rien. Mais je pense que ma réflexion, je ne sais pas où la situer au juste. Mais en fait, la thèse globale qui est impliquée par ce que je dis, c'est que, moi je la résumerai de la manière suivante, les objets qui nous intéressent, tous les objets ne nous intéressent pas. Effectivement, il y a des objets qui nous assignent. Il y a des objets, moi je ne suis pas d'accord avec la phrase, je pense que vous l'avez entendue de départ, hein. Je pense qu'il y a des objets qui desservent, au fond, même quand ils servent. Et d'ailleurs, dans certains cas, on finit par s'en apercevoir. C'est-à-dire, on finit par s'apercevoir que des objets qui ont servi finissent par desservir. Évidemment, la question de la centrale nucléaire est aujourd'hui complètement là pour donner du corps, si j'ose dire, à cette expression. Donc je pense qu'il y a des objets, qui desservent, il y a des objets qui contraignent, les gendarmes couchés, hein, c'est un objet contraignant, c'est un objet indiscutable. Bon, donc tous les objets, nous ne nous traitons pas toujours de manière libre, on pourrait dire les choses de cette manière. Mais il y a quand même la possibilité que les objets ne nous assignent pas, la preuve, il en existe un certain nombre. Il faut soutenir plutôt, on pourrait dire, ces objets-là que d'autres. Et le fond de la proposition théorique qu'il y a, je crois, dans ce que je dis là, c'est que nous n'avons pas fini de découvrir les objets lorsque nous les inventons. Voilà. Et en fait, c'est ça qui se passe avec cette idée de modalisation que j'essaye de soutenir. La modalisation, c'est une façon de découvrir qu'on peut produire le service par d'autres voies, et en fait, du coup, le service lui-même probablement est affecté d'un mode, comme la chaise, le s'asseoir est affecté d'un mode par la chaise de Bruyère, qui n'est pas le mode de la chaise, je ne sais pas quelle autre chaise je pourrais prendre comme exemple, etc. Ce sont des processus qui supposent que les possibilités même du service, sont découvertes au fur et à mesure que le travail non secondaire mais second sur les modèles se réalise parmi nous. Je ne sais pas si je réponds.
Si, très bien. Alors même qu'on pourrait dire que une certaine logique du marché veut qu'on cherche à anticiper ou à prédire un certain nombre, on va dire, d'usages ou de possibilités, de manière à limiter les risques évidemment d'échec du produit, quoi.
Oui.
Donc ce qui revient à réduire et limiter les...
Mais je pense qu'on pourrait dire que le marché, dans le raisonnement qui est le mien, il est paradoxal au sens des psychiatres, hein, c'est-à-dire qu'il est affolant. Il produit du double bind, comme ils disaient les antipsychiatres anglais des années 60-70, c'est-à-dire qu'il dit à la fois il faut ouvrir des usages et en même temps il le fait en fermant, quoi. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'il sorte dans son propre intérêt, on pourrait presque dire. Hein. C'est pour ça que moi je soutiens l'idée que ces propositions, elles peuvent parfaitement être pensées comme des propositions de relance industrielle, de relance de l'industrie et même du marché. Ouais. À condition de comprendre que justement le marché se ferme à partir du moment où il veut à la fois ouvrir des usages et le faire sur un mode qui économise ce que c'est que l'utilité même. C'est ça que j'espère avoir un tout petit peu commencé à montrer ce soir. Il ferme ce que c'est que l'utilité même. Il ne comprend pas ce que c'est que l'utilité même à partir du moment où il encadre strictement et fait de nous des usagers serviles. Voilà. Que, en fait, si on veut relancer le marché, il faut ouvrir la réflexion à un concept de l'utilité qui serait, évidemment, c'est ma proposition, plutôt du type de celui que j'ai essayé de vous décrire.
Merci pour cette définition, cette tentative de définition. Par où commencer ? Moi, je m'intéresse à... Enfin, je suis plutôt dans le pragmatisme que dans la théorie, mais je m'intéresse à tout ce qui est consommation, et notamment consommation collaborative. Et je pense que ça rejoint pas mal des thèmes en fait, qui ont été traités au sens de l'objet utile, mais peut-être ouvert aussi, avec les réseaux, enfin, toutes ces thématiques-là, ça va être difficile à condenser. Et la question, c'était finalement, est-ce que la création ou le design, qui est souvent aussi synonyme un peu de choix, on fait un choix quand on décide de créer quelque chose, et est-ce que c'est nécessaire et est-ce que c'est un besoin justement de créativité, est-ce qu'on a tous besoin d'exprimer sa différence et son choix sur les choses? Et si oui, a priori c'est très humain, comment justement gérer cette... comment le rendre moins nuisible cette différence? Et voilà, après. après il y a des phénomènes de surproduction ou de surconsommation, et justement de pousser toujours l'offre et toutes les conséquences nuisibles justement qu'il peut y avoir autour de ça. Donc voilà, c'est très large en fait. C'est assez philosophique, je trouve.
Je ne sais pas si j'ai...
Je peux préciser hein, si c'est pas clair.
Pardon ?
Je peux préciser si c'est pas très clair. Mais...
Non, c'est enfin, c'est clair. Je ne sais pas si j'ai forcément retenu dans ce que vous dites exactement ce que vous souhaitiez que je retienne. C'est peut-être mais en tout cas, deux idées me sont venues en vous écoutant, si vous voulez. Alors, la première... Je sais bien que ce que je vais dire, c'est loin d'être la façon dont on s'exprime d'ordinaire. Et même moi-même, quand je cesse de faire vraiment attention à ce que je dis et que je cesse d'être une sorte de travailleur de la parole, je suis capable de parler autrement que ce que je vais faire maintenant. Mais bon, si on s'arrête un petit peu pour étudier les questions, réfléchir, je pense qu'il faudrait qu'on aille... à faire attention au fait qu'il n'y a pas, peut-être, pour les humains, tant de besoins que ça. C'est-à-dire que je ne crois pas que l'humanité soit un être de besoin. Enfin, s'il y a quelque chose qui est, comment dire, inévitable pour nous, c'est le fait que rien pour nous n'est inévitable. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je sais que c'est un peu dit de manière générale et un peu paradoxal. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, faites le tour de ce que vous éprouvez aujourd'hui comme des besoins pour vivre dans votre temps avec nous. Qu'est-ce qui là-dedans n'est pas historique ? C'est-à-dire qu'est-ce qui là-dedans peut être défini comme... ce qui appartient ou ce qui appartiendrait à l'environnement de tout temps de l'humanité. Pratiquement rien. Voilà. Et on voit bien, par exemple, dans les moments de grandes catastrophes, comme vous le savez, au Japon aujourd'hui, c'est Jean-Louis Fréchat qu'on vient de recevoir là à Paris cet après-midi, qui me remet ça en mémoire immédiatement, c'est que aujourd'hui, peut-être que les Japonais, pour se débrouiller avec ce qui leur arrive, ont plus besoin que les communications Internet soient rétablies que les supermarchés approvisionnés. C'est un paradoxe. Mais bon, autrement dit, ce que nous appelons besoin est peut-être quelque chose de très relatif. Et donc, en fait, ce n'est pas des besoins au sens absolu ou philosophique du terme. Voilà. Donc, en fait, moi, je suis prêt à soutenir, enfin, cette hypothèse, au moins, pour étudier les choses, doit être posée. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, rien n'est nécessaire pour nous. Rien n'est nécessaire pour nous. Et donc, ça veut dire que nous pouvons nous passer de ce que nous éprouvons comme nécessaire. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il existe pour nous des choses que nous éprouvons comme nécessaires, mais seulement comme nécessaires. Voilà. Donc, ça ouvre... des perspectives infinies de modification de l'existence, hein, de modalisation de l'existence. Et donc, je pense que tous ceux qui nous disent qu'il existe des systèmes pour nous, nous disent quelque chose qui nous fait mal. Voilà. Je pense qu'il faut pousser jusqu'à critiquer la notion de système. Voilà. Donc, y compris pour, je ne sais pas, les approvisionnements énergétiques, enfin, toutes ces questions, je pense que, grosso modo, ça doit aller dans votre sens, même si ce n'est pas pragmatique, comme vous dites. Mais voilà, je pense qu'il n'y a rien de nécessaire. Alors, ensuite, pour ce qui concerne le nuisible...
Mais juste, enfin, de nécessaire au sens de besoin, ou parce qu'on a des besoins nécessaires primaires, par exemple. Et il y a la pyramide de Maslow justement sur ça. Et il parle des besoins primaires, manger, dormir, enfin des trucs vraiment qu'on peut pas...
Comment vous avez dit, manger
et manger, puis... dormir et ce type de choses. Et après justement il identifie des besoins un petit peu qui sont aussi nécessaires, et type socialiser, ouais. Des choses qui sont humaines de tout temps justement. mais qu'on a fait soit avec des outils ou enfin aujourd'hui on a plein de trucs de communication, mais
je sais bien que nous parlons
l'amour par exemple, c'est un truc qu'il avait identifié comme quelque chose de nécessaire en fait. L'amour c'est un besoin, sinon on dépérit quoi, et même il y a des animaux qui sont comme ça s'ils n'ont pas de voilà, il y a quand même des besoins qu'on peut pas enlever quoi, mais
oui, quand on dit les choses comme ça, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a quand même des choses qu'on ne peut pas enlever. Donc, ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oui, sûrement. En même temps, quand même, quand on commence à dire, mais je ne sais pas comment nous pourrions nous parler couramment autrement qu'en disant, comme je vais dire et comme vous avez dit, hein, c'est-à-dire, il y a des besoins primaires, il y a des besoins secondaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire un besoin secondaire ? Ça veut dire que ce n'est pas un besoin. Et du coup, un besoin primaire, ça ne peut exister que s'il existe un besoin secondaire. Donc il n'y a pas de besoin primaire. Voilà. Où il y a des besoins, il n'y en a pas.
Ils sont tous primaires, en fait.
Voilà. Mais quand même, il y a des choses que nous vivons comme des besoins, ce qui ne sont pas des besoins. Bon. Et puis ensuite, sur les exemples que vous citez, bien sûr, manger, dormir, l'amour, comment voulez-vous que je vous dise que ce n'est pas important ? Voilà. Mais manger quoi ? Manger comment ?
Ah non, là je suis d'accord.
Voilà.
Je suis d'accord.
Dormir, de quelle manière ? Dans quel contexte ? À quel moment ? Etc. Et même l'amour. Hein ? Je veux dire, on est en plein en train de se rendre compte que l'amour est une notion historique. La façon d'aimer. Qui est aimable ? Comment voulez-vous que je vous dise que même ces notions-là ne sont pas affectées d'histoire ? Je ne peux pas. Alors c'est ça que j'appelle des modes. Philosophiquement, je n'ai pas développé, d'ailleurs j'en serais pas immédiatement capable, mais le mot de mode a un statut dans l'histoire de la philosophie, chez Leibniz, Spinoza, etc. Ça a été travaillé par Deleuze, et c'est ça que ça veut dire, mode. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire que quelque chose, mettons qu'on appellerait de l'ordre du besoin, n'est pas présent parmi nous autrement que sur un mode affecté de variation, de variété, d'historicité, des choses comme ça. Et qui fait qu'au fond, la nécessité elle-même n'a pas de nécessité. C'est difficile hein, à penser. Mais il me semble quand même que c'est bien comme ça que ça se passe. Voilà. Donc nous ne répondons à aucune de nos... Alors moi, je propose de dire nos conditions d'existence. Hein. Nous avons des conditions d'existence, mais les conditions ne disent jamais, les conditions de quelque chose ne disent jamais comment la chose sera. Elles disent que la chose est possible. Voilà. Nous avons des conditions d'existence, et ces conditions d'existence, nous les modalisons interminablement, incessamment. Nous sommes des êtres historiques, et aucun mode d'existence ne peut être posé comme un mode nécessaire. Voilà. Et c'est bon pour vous, ça. Même si ce n'est pas immédiatement pragmatique.
En tout cas, c'est beau.
Ça ouvre des possibilités. Voilà. Et puis j'ajouterais, puisqu'il me semble qu'il y avait autre chose dans votre remarque ou dans votre question, sur le. Vous avez dit comment est-ce qu'on peut rendre. J'ai mis ça sur mes notes, mais j'oublie un petit peu comment vous l'avez dit. Comment rendre moins nuisible ?
Oui, les processus de création, en fait.
Ouais.
Qui, à mon sens, parfois sont.
Mais dans la logique, si vous voulez, pour le moment philosophique, pour le moment assez abstraite, en tout cas à ce niveau d'exposé où je suis ce soir, de ce que j'essaye de ce que j'essaie de vous dire, même le nuisible est relatif. Voilà. Même le nuisible est relatif. C'est-à-dire, en fait, je pense que mon discours ouvre la possibilité de faire, dans un sens que moi je qualifierais de profond, de la politique. Hein, c'est-à-dire la discussion parmi nous. En fait, le nuisible n'est pas dans les objets ou dans les situations elles-mêmes, mais peut-être qu'à certains moments, c'est relatif, peut-être qu'à certains moments, quelque chose n'est pas nuisible et le devient, hein, n'est pas vécu comme nuisible, mais le devient, etc. Hein. Et donc, la délimitation entre l'utile strict que j'ai essayé de définir en m'appuyant sur Aristote et le nuisible est une délimitation, en tout cas Aristote c'est ce qu'il pensait, est une délimitation qui se discute, qui doit se discuter sans cesse. Et qui est le champ même pour lui, ben, l'un des champs majeurs pour lui de la politique. Ce que je pense, c'est que l'économie, ce que j'appelais l'économie en discutant avec Olivier Assouli il y a quelques minutes, l'économie est une façon de dispenser, qui tend à organiser les choses, à les systématiser. Voilà. Et organiser les choses de telle manière que nous ne les percevions plus comme des modes discutables, modifiables, les modes sont modifiables, voilà. Mais comme, justement, comme de nécessité, donc à nous tenir dans un système de, vie. Voilà. Et au fond, on pourrait très bien imaginer que la recherche variable, certes, mais où est-ce qu'on va mettre la limite entre ce qui est utile et ce qui est nuisible, cette recherche, cette discussion soit d'une certaine manière foreclose, comme disaient certains, interdite par la production d'objets qui sont au fond pauvres, mais qui sont extrêmement entrés dans le registre du service au sens de la servilité.
Bonsoir. Je voulais revenir sur les termes de réglage, choix de fonction. Et un auteur comme Lev Manovic parle de logique de la sélection pour le monde numérique, au sens où aujourd'hui, dans le logiciel, on va faire des choix dans des menus prédéfinis. Et donc, je voulais savoir quelle était la limite, peut-être, entre la notion de réglage et la notion de... Enfin, ce que vous appelez choix de fonction. Donc, il y en a un qui permettrait une modalité et un autre qui serait plutôt une clôture ou une foreclosion, je ne sais pas si ça existe, de l'objet. Et aussi par rapport à l'exemple du ventilateur, pour moi c'est toujours pas résolu, parce que je ne vois pas de réglage possible dans cet objet. Je vois toujours une seule façon de s'en servir, et peut-être qu'il y a d'autres ventilateurs, enfin je ne m'y connais pas assez, qui sont peut-être avec des hélices, mais qui permettent des réglages. Et je ne vois pas où est le réglage possible dans l'exemple.
Bon, j'ai compris, je ne recommencerai plus avec le ventilateur, c'est un mauvais exemple, c'est clair, depuis pour moi... Alors on enlève l'exemple, je voulais évoquer par là cette idée qu'à un moment donné, il y a une espèce de relance d'un service possible par un autre modèle, un autre paradigme. Mais bon, soit je retirerai, si je refais ce genre de conférence, l'exemple, soit je le présenterai autrement. Vous avez raison, hein, il y a un problème dans l'explicitation de mon argument à ce niveau. Alors, pour le reste de votre question, moi je propose aux pragmatiques que vous êtes, aux designers que vous êtes, vous vraiment, moi je ne suis pas du tout, mais en fait je pense que c'est ça qu'il faudrait concrétiser, si vous voulez, c'est à ça qu'il faudrait travailler. Donc je ne sais pas si le mot de réglage est tout à fait juste d'ailleurs lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'il sera suffisamment résistant conceptuellement. Mais enfin, je pense que vous entendez bien, je pense que votre question le manifeste, qu'il y a quand même quelque chose qui se dessine d'une différence entre le choix de fonction et le réglage. Bon. Que proposer à un utilisateur de choisir parmi des fonctions, c'est pas... comment dire, réaliser les conditions d'un réglage. C'est pas la même chose. Le réglage module le service, le choix de fonction, non. C'est simplement un choix parmi les services possibles. Alors, qu'est-ce que c'est au juste que ces réglages, à quoi ça peut, comment ça peut se traduire, s'opérer, etc. Je pense qu'il y a un champ de... Pour moi, c'est un vrai champ de recherche pratique. Voilà. Travailler à faire de quelque chose un appareil et pas un instrument, c'est pour moi un champ de recherche pratique pour lequel je n'ai probablement pas les compétences suffisantes. Il faut qu'on se mette à plusieurs. Voilà. Appareiller ce qui est seulement un dispositif. En tout cas, dans l'histoire de la photographie, ça s'est fait. Hein, il y a des objets pour lesquels on peut dire l'histoire a montré que c'était possible, dans certains cas au moins. Voilà. Dans les exemples que j'ai pris un peu maladroits, par exemple les chaises, bien sûr, il n'y a pas de réglage de la chaise elle-même, mais à partir du moment où vous avez deux chaises à qualité différente, quelque chose comme un rapport qui se règle, la pratique se règle en... comme vous choisissez... quand vous faites une photo, vous préférez un réglage à un autre. Hein ? Donc quand vous préférez une chaise à une autre, et vous pouvez préférer une chaise à une autre, parce qu'il y en a deux, au moins, qui ont des qualités différentes. Bon, il faut chercher. Ouais. Est-ce que j'ai répondu ?
En fait, moi, au départ, j'étais un peu gênée par ce terme de modélisation, de par, en fait, son rapprochement avec le terme de modélisation. Et même dans mes notes, j'avais commencé à écrire modélisation avant de me rendre compte qu'il était question de l'ouverture de modalités possibles. Et en fait, avec cette discussion sur le ventilateur, ou le, je ne sais plus comment vous l'avez appelé, mais le
pulsateur.
Le pulsateur, je me demande si justement il n'est pas question là de modélisation d'une nouvelle idée. Vous avez, je ne sais plus exactement le terme que vous venez d'employer là en répondant à Anthony, mais vous avez parlé peut-être d'un nouveau modèle ou d'une nouvelle idée. Et peut-être que là, c'est plus de la modélisation, alors que pour lorsqu'il est question d'appareil, il est plus question de modélisation. Enfin, c'est une réflexion un peu ouverte.
Il se confirme que l'exemple du ventilateur est très mauvais. Ça ne marche pas du tout dans la conférence de ce soir. Ça me paraît très clair. Alors, je ne recommencerai pas, je vous promets. Bon, il y a peut-être quand même, si vous voulez, ce qui est difficile dans cette... Mais c'est une vraie réflexion, je pense, tout ça, là, qu'on est en train de discuter. Peut-être ce qui est difficile, c'est qu'on ne se place pas, comment dire, à un moment donné dans la discussion, vous et moi, et d'ailleurs peut-être moi-même dans mon propre exposé, me suis placé à deux registres, à deux points de vue, sans faire apparaître que j'avais un petit peu changé le point de vue. Quand vous dites modélisation ou modèle, structurellement, quand même, je pense que le pulsateur de Dyson, qu'il appelle quand même ventilateur, repose sur un paradigme, j'ai dit, un modèle technique qui n'est pas celui du ventilateur, disons, classique. Bon, alors on peut dire c'est un autre modèle qui est, au fond, l'écoute que vous avez. Mais quand je cite cet exemple, en l'occurrence, je le vois bien maladroit, je me place en réalité de l'autre côté, du côté du service, entre guillemets. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un autre objet qui fait ça, c'est forcément des qualités différentes. Et je vous l'ai dit, j'ai peut-être dit trop vite, l'air ne va pas circuler dans la pièce de la même manière. Et donc, c'est comme pour les chaises. Il y a une qualité du service qui fait que ce n'est plus un strict service, que le fait qu'il y ait deux objets ouvre, modalise le service, modalise la manière dont l'objet rend service. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Alors, après, c'est la question que lui posait, que l'interlocuteur précédent, au fond, posait, et à laquelle je ne sais pas répondre, parce que je n'ai pas les clés pratiques, et que je pense d'ailleurs que c'est un problème ouvert au collectif. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour modaliser un service. Donc, je pense qu'il y a déjà un élément de réponse, condition pas suffisante mais nécessaire, qui est de faire diverger un modèle. Est-ce que je suis clair? Voilà. Donc, vous avez un service qui est rendu selon un modèle. Et peut-être que ça commence pauvrement comme ça. Bon. Mais à un moment donné, quelque chose comme du design peut intervenir, qui consiste à faire diverger le modèle de production pour que le service soit qualifié. Et entre dans et nous permettre de nous rapporter à ce service sur un mode modalisé, modalisable, etc.
Une dernière question. Visiblement non. Et bien, on s'arrête là. Merci à tous. Merci en particulier à Pierre Damien Huyghe. Merci.